Nous allons commencer donc cette table ronde, qui d'ailleurs n'est pas ronde, comme vous pouvez le constater, avec Daniel Martinigol, que vous connaissez peut-être, je parle aux enfants notamment, aussi sous le nom de Kim Aldani ou de Nam Alpak, puisqu'elle écrit souvent à plusieurs mains, et que dans ces cas-là, bien sûr, elle utilise un pseudonyme, pour ne pas éclipser totalement son compère. Alors, Daniel Martinigol, je vais la laisser se présenter un petit peu, mais je vais vous en dire tout d'abord deux mots. C'est donc une auteure jeunesse de science-fiction qui écrit des livres aussi bien à destination d'enfants relativement jeunes. Si on prend des bouquins, par exemple, comme ceux que tu signes Kim Aldani, c'est lisible à partir de 9 ans à peu près, que des bouquins déjà un petit peu plus exigeants d'un point de vue intellectuel, comme par exemple son Uchronie, sa dernière Uchronie, dont elle nous parlera tout à l'heure, et dont je ne donne pas le titre pour ne pas tout à fait tuer le suspense. Alors Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, à part ces quelques mots très rapides que je viens de dire ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? À côté de mes activités d'auteur, j'ai été enseignante pendant très longtemps, et je revendique quand même mon activité de prof de français pendant 37 ans devant des enfants, parce que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a sûrement aussi aidé à envisager mon public d'une certaine façon, en gardant un contact permanent avec des jeunes, des adolescents. Et j'ai aimé ce métier, mais je suis en retraite depuis un an, et donc désormais je travaille à temps plein en tant qu'auteur, et j'avoue que c'est un très grand plaisir. Je suis quelque part libérée, enfin j'ai du temps, enfin j'ai du temps devant moi, chose que je n'avais pas obligatoirement quand j'enseignais à plein temps dans un collège de ZEP. Et c'est vrai que j'ai plein d'idées qui fourmillent. Enfin, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps si avec la retraite, justement, j'avais l'intention de m'arrêter d'écrire. Et j'ai dit non, j'ai pris ma retraite de l'éducation nationale, mais pas du tout en tant qu'écrivain. Donc j'ai bien l'intention de continuer à écrire.
Alors je rebondis sur ce que tu dis, puisque tu parles de ton activité de prof. Je sais qu'en tant que prof, tu invitais aussi assez souvent des auteurs devant tes élèves, et notamment que quand tu as découvert, il y a déjà pas mal de temps, un auteur qui s'appelle Barjavel, tu as voulu absolument le rencontrer, tu as fait des pieds et des mains pour le rencontrer. Alors comme j'aime bien donner du sens à la présence des enfants devant nous, je vais te poser la question suivante. À quoi ça sert finalement que des élèves rencontrent comme ça un auteur qu'ils ont lu ou qu'ils n'ont pas encore lu éventuellement ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Eh bien, je pense que c'est difficile sur le coup de quantifier l'impact que peut avoir une rencontre avec un écrivain. Mais au long terme, en revanche, c'est sûr et certain que des jeunes qui ont eu l'occasion d'approcher un écrivain, de discuter avec lui, de voir présenter la méthode de travail, de voir à quel point ça représente du travail en correction, c'est un travail de très longue haleine... ça reste, il reste quelque chose, il reste au moins l'idée que derrière la couverture d'un livre se cache une personne et que cette personne, après tout, son nom est écrit sur la couverture et que ça vaut peut-être le coup qu'on mémorise son identité. Et c'est rare que des élèves qui ont eu la chance d'avoir un auteur dans leur classe, travailler avec un auteur, rencontrer un auteur, n'aient pas ce regard un petit peu plus acéré sur l'identité des écrivains, des livres qu'ils vont avoir l'occasion de voir passer entre leurs mains et de lire, soit par contrainte, parce qu'il faut reconnaître quand même que dans le cadre scolaire, assez souvent, on oblige, entre guillemets, un petit peu nos élèves à lire. Alors, ils retiendront peut-être que cet écrivain-là, c'est un écrivain français, ou que ce livre-là, c'est une traduction parce que c'est un écrivain étranger. Et ça donne une approche différente du livre, je pense. On travaille vraiment sur le long terme quand on met auteur et jeune lecteur en contact.
Alors tu disais que derrière la couverture se cachait un auteur. Je dirais que quelquefois sous la couverture il y a deux auteurs ou trois auteurs. Donc toi tu travailles souvent à plusieurs mains sur tes livres, avec ton compère notamment dont tu vas nous parler. Je te laisse là aussi le soin d'annoncer son nom. Peut-être qu'on pourra le faire venir tout à l'heure. Puisque je crois
si on le voit, on va l'arrêter.
Si on le voit, on l'arrêtera.
Normalement, il passerait par là bientôt.
Alors, dis-moi, comment ça se passe d'écrire à plusieurs ? Parce que je pense aux élèves là, qui sont devant nous. Écrire un petit texte, une petite rédaction, c'est déjà difficile. Mais alors, si on est obligé d'écrire à plusieurs, de se partager des idées, et d'écrire une histoire commune alors qu'on a des idées différentes, ça doit être vachement compliqué. Alors tu nous expliques ça ?
Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit dans le travail en collaboration, c'est le mot respect. Je crois que, au-delà de tout, il faut bien s'entendre avec la personne avec laquelle on travaille, c'est sûr et certain, mais il faut respecter les idées de l'autre, respecter la personne, l'apprécier en tant qu'ami. C'est le cas pour moi avec mon co-auteur, donc, qui s'appelle Alain Grousset, et nous travaillons ensemble depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, nous sommes collaborateurs dans le travail, nous sommes amis de longue date, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on va peut-être tuer un peu le mythe, mais nous ne sommes pas un couple dans la vie. Hein, j'ai mon mari, Alain a son épouse, nous avons chacun notre famille, et nous sommes réellement amis et collaborateurs dans le travail depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs anecdotes dans notre parcours de travail en commun qui montre à quel point la notion de respect, respect des idées de l'autre, respect de la personne, de ce qu'il est, de ce qu'il aime, ça compte énormément pour travailler à plusieurs. C'est comme tout travail d'équipe. Il faut ne pas complètement s'effacer devant l'autre, avoir un petit peu suffisamment de punch et de personnalité pour oser dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans ce que propose l'autre. Mais il ne faut pas d'agressivité. C'est pas possible de travailler à deux avec de l'agressivité. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Alain et moi, nous ne nous sommes jamais disputés. Nous ne sommes pas toujours d'accord. Sur certains de nos projets, nous échangeons des idées avec parfois pas mal de véhémence. Mais bon, au bout d'un moment, il y a un consensus qui se crée. On ne peut pas dire que l'un cède par rapport à l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Disons que si l'un a une idée A et l'autre une idée B, on va finir par faire un mélange des deux pour arriver à un milieu AB qui va être matiné aussi bien du tempérament de l'un que du tempérament de l'autre.
Mais concrètement, ça se passe comment ? Est-ce que vous écrivez chacun une partie ou est-ce que l'un s'occupe du décor, l'autre des personnages ? Ça se passe comment de façon très concrète ?
Alors, de façon très concrète, c'est quelque chose qui est écrit, mais qui commence toujours par de l'oral, en fait. C'est-à-dire que nous discutons énormément. Nous ne nous voyons pas, franchement, de visu très souvent, puisqu'on habite à 400 km l'un de l'autre. Donc, on se téléphone énormément, on communique beaucoup par mail aussi. Mais il y a ce besoin de discuter réellement à l'oral. Et donc, le téléphone fonctionne énormément entre nous. C'est d'ailleurs la plupart du temps Alain qui m'appelle, pour la bonne raison qu'il a ses vieux réflexes de l'époque où il travaillait à France Télécom et où il ne payait pas le téléphone. Et donc, c'est toujours lui qui, en général, m'appelle le premier. Mais ça fait toujours beaucoup rire mon mari comme son épouse. Quand on est au téléphone, enfin, je décroche le téléphone, on continue la conversation comme si on l'avait arrêté il y a 5 minutes. On se dit à peine bonjour. Enfin, oui, alors tu sais, j'ai pensé que... Et ça y est, c'est parti. Et donc, le « j'ai pensé que » me fait rebondir sur d'autres choses. Et puis, on met en place comme ça, une intrigue, une idée. Enfin bon, Alain est très, très fort pour les décors. Ça, je reconnais qu'Alain a une perception du visuel d'un roman, du décor, assez rapidement. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à créer d'abord les personnages. Parce qu'il me faut mes êtres de papier, ce sont quelque part des amis. Enfin bon, même s'ils ne sont pas très sympathiques pour certains, des fois. Mais disons que je les connais bien. Et j'ai besoin d'avoir assez vite des personnages avec une identité, avec un caractère. Je les baptise très vite. Je leur donne un physique assez rapidement, que je ne suis pas toujours capable d'ailleurs de visualiser. Ce qui fait que ça m'arrive de... Alors je vais vous faire une grande confidence. Je vais vous confier un grand secret. Je suis une arracheuse de pages dans les revues des salles d'attente. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. La terreur des médecins ou des dentistes. Ça m'est arrivé plusieurs fois en voyant des revues avec des mannequins, enfin qui présentent des articles de mode ou des vêtements, etc. Chose dont j'avoue, je ne fais jamais l'acquisition, j'achète jamais ce genre de revue. Donc je vois ça dans les salles d'attente. Et de temps en temps, ça fait tilt. D'un seul coup, je vois... Parce que ce petit minois, parce que ce visage, parce que ces vêtements, parce que cette attitude me rappelle quelque chose qui est assez confus dans ma tête, je reconnais mes personnages. Alors quand je reconnais un de mes personnages en me disant « Ah voilà, Matisse ressemble à ça » ou « Ah voilà, Anne-Marianne, je la vois comme ça », eh bien ma foi, j'arrache la page, le plus discrètement possible.
Et après, tu te sauves en courant.
Oui, oui, en me faisant fusiller du regard par les autres personnes dans la salle d'attente qui se disent, mais enfin, mais c'est qui celle-là qui ose arracher une page de la revue du médecin ? Et bon, j'ai toujours un petit air vraiment coupable. Enfin, je sais bien faire ça maintenant. Et
j'aimerais savoir dans quelle revue tu as trouvé les abîmes.
Ça, c'est autre chose, les abîmes. Et donc, pour revenir à la collaboration, c'est vrai que moi, j'ai besoin des personnages. Alain crée les décors. Donc, assez vite, on se rejoint sur quelque chose qui est déjà un socle commun et assez solide pour une histoire. Et voilà, on démarre. Alors, je ne sais pas si, par exemple, il y a parmi nos petits lecteurs dans le public des élèves qui ont lu les Manches Forêts, parce que les Manches Forêts de Kim Aldani, c'est tout de même un livre qui a été beaucoup lu, qui a pas mal de succès. Alors, pour vous donner une idée, Alain me dit un jour au téléphone, j'aimerais bien faire une histoire dans une planète, sur une planète entièrement forestière. Eh ben, je dis, oui, bien, moi, les trucs écolos, ça me branche tout de suite. Alors, je dis, OK, on fait une planète forestière. Et puis, il me dit, mais tu sais, il faut que ce soit une forêt un peu particulière. Une fois qu'on a coupé les arbres, au bout d'une heure, ils ont repoussé à la même hauteur. Première réflexion qui me vient à l'esprit, je l'ai dit tout à trac à Alain. Je dis, ça ne va pas être facile de faire des routes. Hein. Alors, il me dit, ah zut, j'avais pas pensé à ça. Bon, alors donc, il raccroche le téléphone sans dire au revoir, sans un mot. Une heure après, le téléphone sonne. Il me dit, bon, alors voilà, j'ai trouvé, dans cette forêt, il va y avoir des grosses chenilles qui vont manger la forêt. Alors moi, je restais un peu silencieuse au bout du fil en disant, des grosses chenilles. Bon, alors, une chenille, enfin bon, à peu près comme tout le monde, je vois ça à peu près long comme ça. Donc une grosse chenille, la taille d'un chien, quoi, à peu près. Je dis, comment veux-tu que des grosses chenilles mangent la forêt ? Alors, il me dit, non, mais t'as pas compris, c'est des grosses chenilles.
Des grosses, grosses, grosses
chenilles. Des grosses, grosses chenilles. Alors, j'étale un peu plus les bras dans ma tête, si j'ose dire. J'imagine des chenilles de la taille de mon bureau. Et puis, et je lui dis, mais enfin, mais non, mais je lui dis, tu te rends compte, là, je sais pas si on dit la bouche ou la gueule d'une chenille, mais enfin, je dis, pourquoi ça mange un arbre ? Mais il me dit, t'as pas compris, il me dit, c'est des chenilles grandes comme des TGV. Ah oui, évidemment, ça change tout. Alors, voilà comment sont nés les Manches Forêts, en fait, de la conversation, de l'échange verbal, de l'image qu'Alain avait dans la tête, de celle que moi j'avais, en fait, des contre-propositions que je pouvais lui faire, jusqu'à ce qu'il arrive à me dire ce sont des chenilles grandes comme des TGV. Donc là, effectivement, on pouvait envisager que ces bestioles-là mangent des arbres. Et donc, on a créé, au départ, les Manches-Forêts avec cet échange en discussion. Et puis, pour répondre à ta question, en fait, ensuite, on a construit chapitre par chapitre, parce que nous travaillons comme ça. Nous faisons un synopsis très, très détaillé, très serré. Et... bon, ben voilà, après on se partage le travail. Pour les Manches Forêts, ça ne se sent pas trop dans le roman, je pense, mais nous avons écrit le roman en parallèle. C'est-à-dire que quand j'écrivais le chapitre 1, Alain écrivait le chapitre 6. Quand je suis arrivé au 5, il était au 10, et le roman était fini. Et ensuite, j'ai repris tout l'ensemble, parce qu'il serait là, il le dirait, il me confie la tâche de correction, parce qu'il fait confiance au prof de français que je suis.
Est-ce que la science-fiction n'est pas le vecteur idéal et la littérature idéale justement pour cet échange d'idées et cette construction commune ?
Ben, bien sûr, parce qu'on ne se brime pas en fait. On laisse dériver les choses. Enfin, je veux dire, n'importe qui vous dit on va écrire une histoire avec des chenilles grandes comme des TGV, vous avez l'impression que c'est l'heure de sa piqûre là. Hein. C'est vrai que ça paraît complètement fou. Et en même temps, pourquoi pas ? Si vraiment ça ne marche pas, on n'hésitera pas à l'un ou l'autre à dire à l'autre ben non, ça passe pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et là, ça marchait, alors on est parti dans notre histoire.
Alors justement, parlons de la science-fiction. Est-ce que c'est une vieille passion pour toi ? Est-ce que tu es tombée dedans quand tu étais petite ?
Oui, tout à fait. Je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que j'ai commencé à en lire, j'avais 11 ans, en découvrant tout à fait par hasard des romans de mon grand-père enfermés dans le bas d'une bibliothèque quasiment à clé, le genre de choses interdites là, qui évidemment excitent la curiosité des enfants encore bien plus. Et donc j'ai ouvert ce bas de bibliothèque et j'ai trouvé la collection du Fleuve Noir Anticipation avec les magnifiques couvertures de Branton. Et je dois dire que ces couvertures ont été pour moi un déclencheur formidable d'envie de lecture. C'est la raison pour laquelle j'essaie, dans la mesure du possible, d'être toujours très vigilante sur mes couvertures et puis de choisir, enfin d'impulser un peu le choix de mes éditeurs vers des illustrateurs dont j'apprécie le travail.
Manchu notamment.
Manchu notamment, qui a fait pratiquement toutes les couves de mes propres romans. J'ai lu un premier livre qui m'a rappelé un film que j'avais vu à la télé, je ne savais même pas que ça s'appelait la science-fiction. Je n'ai pas tout compris, ce qui fait que je contrecarre beaucoup l'idée qui consiste à dire que dans un roman jeunesse, il faut absolument que le jeune lecteur comprenne tout. C'est faux, ça ne fait pas de mal. Depuis la toute petite enfance, on serait tous restés à oui-oui, hein, si on n'avait pas eu à un moment donné quelque chose de plus dur à se mettre sous la dent. Et donc, il y avait du vocabulaire dans ce livre que je n'avais pas vraiment compris. Mais bon, j'ai insisté, je suis allée jusqu'au bout, j'ai pris un deuxième livre. Et au fur et à mesure de la lecture de cette collection, je me suis familiarisée avec le genre, avec la norme du langage de science-fiction. Et ça me plaisait énormément. Et je faisais ça en cachette. Mon grand-père m'a piqué un jour pendant que j'étais en train d'en lire un... dans la plus complète clandestinité, parce que moi je fais partie d'une génération où on nous offrait des protège-livres pour protéger nos livres, et donc j'avais un magnifique protège-livre en cuir avec un petit Edelweiss marqué Souvenirs des Alpes, et je pouvais mettre là-dedans tout ce que je voulais. Ma famille me fichait une paix absolument royale du moment que je lisais. Vous savez, je dis toujours aux enfants, si vous voulez que vos parents vous laissent tranquille, mettez-vous dans un coin avec un livre et tout le monde d'un seul coup va devenir très silencieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Bon, alors donc, là, c'est magique. Donc, et mon grand-père est passé derrière moi, par-dessus mon épaule, il a regardé ce que j'étais en train de lire, et il a reconnu un de ses livres. Et il m'a dit cette phrase absolument merveilleuse qui m'a servi de mise en orbite pour tout mon travail d'auteur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lis là? C'est de la science-fiction. Et j'ai dit, oui, je sais, Pépé. Et il m'a dit, mais c'est pas pour toi, parce que la science-fiction, c'est pas pour les jeunes.
Et c'est surtout, pas pour les filles.
C'est pas pour les filles. Et je remercie mon grand-père au fond du ciel, hein, en disant que merci Pépé, grâce à toi, j'ai écrit 40 romans qui sont tous de science-fiction et qui sont tous pour les filles. Hein, alors donc, finalement, ça a été une chose qui m'a vraiment marquée pour toujours. Et voilà, comme tu disais, je suis tombée dedans quand j'étais petite.
Donc tu es tombée dedans quand tu étais petite, mais tu as lu jeune de la littérature adulte. Est-ce que c'est pour ça que tu écris pour les jeunes?
Alors, oui, mais il y en avait très peu, d'abord, de littérature pour la jeunesse à l'époque. Et puis, je lisais deux catégories de romans, en fait. Je ne me cache absolument pas du fait que je dis souvent en riant que je suis la petite fille d'Angélique Marquise des Anges et de Barjavel, parce qu'en parallèle avec... les romans de science-fiction que je pouvais lire, un roman qui m'a marqué, c'était évidemment La nuit des temps de Barjavel. En parallèle, je lisais des romans féminins, des romans d'amour qui étaient régulièrement achetés dans ma famille parce que ma mère et mes tantes étaient des lectrices de romans sentimentaux. Et alors, comme je dévorais absolument tout ce qui me tombait sous la main, je lisais ça aussi. Et j'étais un petit peu surprise de voir que dans les romans de science-fiction que je lisais, il y avait très peu de part finalement faite aux sentiments amoureux. Ça, c'est vrai que, mis à part être très décorative avec leurs petits bikinis qui résistaient d'une façon absolument sidérante au vide spatial, hein, les femmes dans les romans de science-fiction que je lisais n'avaient pas un rôle particulièrement gratifiant. Et d'un autre côté, dans les romans d'amour que je lisais, il n'y avait jamais de fusée. Hein. Alors donc, je me suis dit... ça serait bien de mettre les deux ensemble, parce qu'en fait, si moi j'aimais lire ces deux genres de livres quand j'étais ado, pourquoi pas ceux d'aujourd'hui? Et donc, je me suis lancée dans ce genre de roman.
Alors, je propose que tu nous donnes une petite définition de la science-fiction, puisque nous parlons de science-fiction depuis le début de cette table ronde. Nous avons en face de nous des jeunes qui en lisent, mais peut-être que ce serait intéressant que tu nous donnes ta définition de la science-fiction. Je me souviens d'une fois où tu m'avais dit quelque chose d'extrêmement intéressant, que je réutilise d'ailleurs éhontément, relativement souvent, sur un balai qui vole et sur la différence entre fantasy et science-fiction.
Ah oui, mon petit exemple du balai d'Harry Potter. Oui, alors en fait... c'est vrai que le Nimbus 2000, ou quel que soit le nom du ballet d'Harry Potter, quand Harry enfourche son balai, on ne sait pas trop ce qu'il fait pour que ça décolle, mais enfin, ça décolle tout seul. Quoi. C'est magique, c'est le cas de le dire. On est dans la magie. Il n'y a rien d'autre qu'un manche à balai. J'ai vu l'autre jour, j'ai revu les films, parce que je voulais me préparer à la dernière salve qui va bientôt nous arriver, là, des derniers films. Donc j'ai regardé un petit peu ceux qui précèdent. Et en fait, il y a un système d'accroche quand même. Parce qu'un jour, je me disais, ça ne doit pas être facile d'être quand même à cheval sur un manche à balai comme ça, à une altitude pareille, à une vitesse pareille. Donc il y a un système quand même d'accroche. Mais il n'y a pas de moteur. Absolument pas de moteur. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est la magie, c'est le fantastique, c'est... On est dans un monde de fantaisie où il n'y a pas d'explication rationnelle. Ben, la science-fiction, c'est tout simple. Si on dévisse le bout du balai d'Harry Potter, à l'intérieur, on va trouver miniaturisé un superbe petit moteur anti-gravitation avec un bouton qui est en rappel pour le fonctionnement au niveau de l'autre bout du manche à balai. Et puis voilà, quand Harry enfourche son balai... Il appuie sur ce petit bouton de contact, si j'ose dire, et son petit moteur anti-gravitation se met en marche. Et ça le fait décoller. Il va pouvoir jouer au Quidditch et faire tout ce qu'il veut avec. Mais il y a une explication rationnelle, à savoir qu'il y a quelque chose qui est mécanique, entre guillemets, même si c'est une mécanique totalement inventée, parce qu'on n'est peut-être pas prêt de trouver des moteurs anti-gravitation, mais on a quelque chose de pseudo-scientifique qui rationalise le fait que le balai peut décoller et que Harry peut voler grâce à ça. Voilà. Et c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la définition de la science-fiction par rapport à ce qui serait fantasy, fantastique, etc. C'est que la science-fiction, elle a une caution scientifique. Elle essaie de rationaliser les choses, même si ça paraît farfelu comme caution scientifique. Il y a quand même une explication qui fait que on peut se raccrocher à quelque chose pour dire, voilà, ça fonctionne comme ça, parce que c'est ça. Voilà.
Alors, en t'appuyant sur tes livres et ce que tu viens de nous dire, est-ce que c'est ce mélange de merveille, d'évasion, d'aventure, et de l'autre côté, d'explication, de rationalité, qui fait l'intérêt de la science-fiction, notamment quand on s'adresse à des jeunes ?
Oui, je pense, parce que moi, je n'essaie pas de mettre un message dans mes livres. J'écris des livres que j'ai envie d'écrire, parce que je porte à un moment donné une histoire. Et tu parlais des abîmes tout à l'heure. Donc, les abîmes d'Outre-mer, en fait, sont nés sur les digues. Enfin, la digue, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Le chemin de ronde d'une grande forteresse à Québec, où j'étais en train de regarder le fleuve Saint-Laurent. Et je me suis dit que c'était quand même assez fabuleux de penser que, alors que je regardais passer des gros bateaux de transport qui allaient jusqu'au port de Québec, il y avait aussi, pratiquement au même endroit, des baleines en dessous. Et je me suis dit, ça serait marrant si c'était les baleines qui transportaient ce que transportent les bateaux. C'est tout. Enfin, c'est une idée complètement farfelue au départ. Et puis, à partir de ça, j'ai créé mes vaisseaux spatiaux, biovaisseaux, transporteurs de passagers, principalement. Et voilà, après, il a fallu rationaliser un peu tout ça. Et je me souviens d'une longue conversation avec mon mari, où je lui expliquais comment les abîmes d'outre-mer se tasaient en hyperespace pour traverser la moitié de la galaxie le temps d'un claquement de doigts. Et j'ai un mari qui est prof d'histoire géo, et alors lui, il est carré dans ses idées. Et tout d'un coup, il m'a dit, « Et ça mange quoi, un abîme ?» Bon. Oh zut, j'ai pas besoin de ce genre de questions.
C'est casse-pieds, les maris, parfois.
Eh bien si, mais il a insisté, il m'a dit, « Oui, mais si, tu dis que c'est un être vivant, ça a donc besoin d'une énergie, enfin quelque chose qui fasse fonctionner la mécanique, si j'ose dire, justement, de ce biovisseau. » Alors j'ai répondu comme ça pour me débarrasser un peu de sa question encombrante. J'ai dit, mais ça se nourrit de l'énergie des soleils en passant auprès des étoiles, etc. Bon, il m'a dit, ça va, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Et je pense que les lecteurs n'ont pas besoin de plus non plus, parce que j'ai pas donné beaucoup plus d'explications dans la trilogie. Mais je pense, ça c'est quelque chose qui est très important, je crois. Je pense que si c'est clair quelque part dans la tête de l'auteur... Même si ça ne transparaît que très légèrement dans le texte, le lecteur va l'admettre.
Enfin, oui, il y a une cohérence
que le lecteur va sentir. Si quelque chose n'est pas vraiment clair dans la tête de l'auteur, par une espèce d'incroyable phénomène, ça va se ressentir au point que le lecteur va sentir quelque chose qui ne va pas, il va accrocher sur cette chose-là. Et pour construire Sens interdit, justement, le roman du chronique que j'ai fait avec Alain, on a eu besoin de beaucoup de recherches scientifiques sur les effets du virus de la grippe, puisque tu as dit tout à l'heure que j'en parlerai plus tard. J'en parle maintenant.
Oui, tu peux en parler, je peux en parler aussi, comme tu veux.
Ben, commence.
Alors, Sens interdit, c'est donc une uchronie, hein, pour les jeunes qui sont là et qui ne connaîtraient peut-être pas le terme. Qu'est-ce que c'est qu'une uchronie ? Vous savez que dans l'histoire, il y a des événements. Et que les événements, ça entraîne des événements qui entraînent d'autres événements. Et on peut se poser la question à un moment, et si cet événement-là n'avait pas eu lieu ? Ou bien, et si cet événement-là avait été autrement ? Et à partir de ce moment-là, on peut s'amuser à voir ce que ça aurait donné. Que serait notre présent si tel ou tel événement avait été différent à un moment donné ? Et dans Sens interdit, c'est sur la grippe espagnole, donc, que vous vous êtes penché avec Alain. Et la grippe espagnole a des effets étranges, notamment sur les sens de l'être humain. À partir de ce moment-là, je suppose qu'effectivement, il a fallu faire beaucoup de recherches sur ce que donnait le sens, notamment le sens olfactif, en l'occurrence, dans la culture humaine.
Oui, c'est-à-dire qu'au début, on voulait parler de la perte d'un sens consécutif à l'épidémie de grippe espagnole, qui portait le nom d'Espagnol parce que ce sont les Espagnols qui l'ont identifié, en fait, qui ont été les premiers à travailler officiellement sur le virus. Elle n'était pas plus originaire d'Espagne que de n'importe où ailleurs. Et Alain voulait que nous travaillions sur l'humain, c'est-à-dire que très souvent, quand les gens partent d'un point de divergence dans le passé pour arriver à un présent alternatif dans le roman du chronique, on part d'un phénomène d'un fait historique ou d'un phénomène sociologique, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus extérieur à l'humain que l'homme lui-même. Et donc Alain m'a dit, j'aimerais qu'on travaille sur la perte d'un sens. Alors on a envisagé les uns après les autres. Bon, c'est sans doute parce que nous sommes des lecteurs que la première idée qui nous est venue, c'était ce qui pour nous serait absolument terrible, c'est la perte de la vue. Donc on est parti sur l'idée de... Mais ça a été déjà fait d'ailleurs, des mondes aveugles. Et puis c'est très très difficile de construire un univers en pensant que la Terre serait uniquement avec des populations aveugles. Donc ça ne marchait pas, on n'y arrivait pas. On est parti sur l'ouïe. Et c'est vrai qu'un monde de sourds, c'est très 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 difficile aussi. L'épouse d'Alain Grousset a travaillé énormément sur la communication par langue des signes. Et donc, elle nous a dit, ça ne va pas être facile d'écrire, ne serait-ce que les dialogues, disons les choses telles qu'elles sont. Donc, on a renoncé. Le toucher, impossible. D'emblée, on est parti en évitant le toucher, parce que supposer qu'on ne puisse plus avoir la notion de chaud, de froid... Enfin, on est condamné, de toute façon.
Et on ne se sent même pas marcher.
Oui, non, le sens de l'équilibre n'est plus là, enfin, ça n'allait pas. Donc, on est arrivé à l'odorat, parce qu'en fait, le goût, ça va avec, la rétro-olfaction. Donc, on est parti sur l'idée de l'odorat. Et là, on a commencé à se rendre compte que oui, là, ça nous apportait de la matière pour construire une société différente, avec l'hypothèse que la grippe espagnole avait détruit l'odorat, ou tout du moins... Alors au départ, Alain voulait justement une destruction totale de l'odorat. Et je me suis vraiment battue bec et ongles pour défendre l'idée qu'il fallait tout de même garder certaines classes d'odorants, parce que sans odorat du tout, il n'y avait plus grand-chose à raconter non plus. Alors qu'en envisageant ce qu'on a fini par choisir, l'hypothèse que les humains de nos jours étaient soit odorants, végétal, odorant animal ou odorant minéral, ça nous a amené à pouvoir construire l'idée des castes, de la classification justement des gens, et puis le positionnement de notre héros qui est un odorant absolu et qui évidemment va avoir pas mal d'ennuis de ce fait. Hein, Et donc, on s'est quand même beaucoup renseigné sur l'aspect médical des choses. Alain était moins partie prenante que moi pour chercher des renseignements scientifiques. Moi, il se trouve que j'ai une fille qui est chercheuse en chimie pharmaceutique et qui passe le plus clair de son temps à faire des recherches pour trouver des molécules qui constitueront plus tard de nouveaux médicaments. Et je suis peut-être plus sensibilisée justement qu'Alain du fait de mes conversations avec ma fille, mais je sais à quel point c'est important. Pour donner une idée, ma fille actuellement travaille sur des molécules qui pourraient faire un jour un médicament qui soignerait le diabète gestationnel. Donc c'est très très important. Enfin, là,
pour les enfants, le diabète gestationnel, c'est un problème qu'ont les mamans quand elles attendent un bébé.
Voilà. Alors donc c'est quand même formidable de penser que justement dans des laboratoires on se penche sérieusement sur tous ces problèmes-là pour essayer de soulager justement des gens grâce à des médicaments. Et j'ai donc dit à Alain, non, on ne peut pas parler de la modification de l'odorat humain sans avoir une idée de comment agit le virus sur l'odorat. Alors donc je me suis renseignée. Ah, j'étais incollable sur le virus de la grippe. On était en plein dedans, hein, parce que l'an dernier, tout le monde parlait des vaccins contre la grippe, etc. Alors tout le monde parlait du H1N1, mais il y a le H2N2, le H3N3, enfin, il y en a plein. Donc j'ai appris tout ça, j'ai tout oublié d'ailleurs. Enfin, il faudrait vraiment que je m'y remette sérieusement si je voulais de nouveau écrire quelque chose là-dessus. Mais c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé ça. Et Alain m'a laissé tranquillement faire cette partie-là. Il n'avait pas envie de ça.
Ok. Alors tu dis que tu n'écris pas pour faire passer un message, qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des messages qui puissent passer. On n'a pas toujours cette impression. Je te donne un exemple. Quand tu écris, quand tu parles de la planète Védème dans Les Sondeurs des Sables, on a un peu l'impression que c'est quand même ta préoccupation pour l'eau, qui n'est quand même pas très récente, si je me rappelle bien de L'Or Bleu, qui était quand même un de tes premiers romans, sinon
oui,
le premier.
C'est le premier, L'Or Bleu, c'est le premier.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même certaines préoccupations qui poursuivent l'écrivain et qui lui font inventer des mondes à partir d'une idée, à partir d'un message peut-être parfois?
Oui, à partir d'une idée et à partir d'une lecture aussi. Moi, j'ai été marquée par Dune, hein, quand même. Rendons à César ce qui est à César.
Et à Muad ce qui appartient à Dib.
et c'est vrai que, bon, il y a... Enfin, je ne sais pas comment on peut envisager les choses, enfin, d'autres auteurs, comment on pourrait dire ça. Mais moi, je sais que je suis marquée parce que je lis, parce que je vois, parce que j'entends, etc. Et c'est vrai que les problèmes de l'eau, enfin, d'une façon concrète, ils m'ont vraiment frappée le jour où j'ai fait un premier voyage et un séjour en Afrique. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que quand on a des villages où le puits est tari et qu'il faut aller chercher à 5 km avec un jerrycan de l'eau pour sa famille, ça change complètement la donne par rapport à nous qui avons la chance à tous nos robinets, y compris dans nos chasses d'eau, d'avoir de l'eau parfaitement consommable. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement me colle à la peau, je pense, parce que depuis que je suis très jeune, quand j'ai découvert la SF à l'âge de 11 ans, j'étais incapable de dire exactement quels étaient les pays limitrophes de la France, je crois. Je n'étais pas assez collé en géographie pour ça. Et puis, je savais déjà les noms de certaines constellations et j'avais la sensation d'être terrienne. Je me suis toujours sentie terrienne. Et être terrienne, ça m'a amené à me dire que, effectivement, et à constater que la première chose importante, c'était la planète elle-même, quoi. Puis en plus, on sait maintenant, on est mal parti pour aller bien loin. Ça ne va pas être facile.
On est embarqué dans un vaisseau qui commence à fuir de toutes parts, si on peut dire.
Oui, voilà, c'est ça.
Autre question que je voulais te poser, parce que j'ai remarqué en lisant d'un côté Outre-mer et de l'autre côté Les Sondeurs des Sables, justement, qu'il y a des échos entre les deux. Ben, je veux dire, tu as quand même une extraterrestre, une héroïne extraterrestre qui s'appelle Perla, hein, sur Védem. Et de l'autre côté, les perles, ce sont les pilotes des abîmes. Et puis, on trouve une famille aussi qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié, la famille Gellon, c'est ça,
ouais.
Qui rappelle quand même fortement
les Maglones. Les Maglones. Des abîmes. Mais oui, mais c'est tout le même monde, ça. Enfin, si on prend tous mes romans, en fait, c'est quelque part, ça se suit sans se suivre.
Ton univers personnel.
Oui, ma grande histoire du futur. ça commence avec les soleils de Bali, où pour la première fois, on va installer une base sur Mars. Ensuite, on a l'heure bleue, où les humains se sont déjà installés pratiquement dans tout le système solaire. Ensuite, on prend les oubliés de Vulcain, où là, on a une confédération de 30 mondes. Et ensuite, on enchaîne avec donc la trilogie d'Outre-mer, savoir que les abîmes d'Outre-mer, on a 100 mondes. L'envol de l'abîme, on va pour la première fois jusqu'au nuage de Magellan, notre galaxie satellite autour de la Voie lactée. Et dans l'appel des abîmes, on atteint pour la première fois la galaxie d'Andromède. On s'éloigne de plus en plus.
Donc, vous voyez, c'est terrible. Si vous voulez tout comprendre, vous devez tout lire. C'est vraiment terrible, ça.
Non, c'est pas vrai. On peut les lire séparément les uns des autres. Et alors, les sondeurs des sables, les sondeurs des sables, c'est... on est dans une autre galaxie, ou peut-être un univers parallèle, je sais pas trop, où des maglones se sont perdus. Et puis... là, leurs descendants ont agi, ont fait souche, et on en arrive aux personnages de Vedem et Irgan. Voilà.
Tu as des auteurs qui t'ont particulièrement influencé, à part ceux dont tu nous as déjà parlé, Barjavel, Frank Herbert, ou qui aujourd'hui t'influenceront encore? J'ai cru repérer quelques références à Tyrannel, par exemple, dans certains romans.
Je connais Elisabeth von Harbour depuis très jeune, puisqu'on était en fac ensemble à Dijon. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup aidée. Je n'oublierai jamais le jour où elle a lu le manuscrit de L'Or Bleu, de mon premier roman. Elle l'a lu alors que j'étais vraiment sur les charbons ardents, à tourner autour d'elle jusqu'à ce qu'elle me dise « Fiche-moi la paix, va-t'en ». Je suis revenue au bout d'un bon moment et elle avait fini sa lecture, elle avait posé le manuscrit sur la table. Et je lui ai dit « Alors ?» Elle m'a dit « C'est bien, mais il faut tout refaire ». Alors donc...
Oui. Très agréable.
Très bien, merci. Et donc, effectivement, j'ai tout refait. Mais entre-temps, j'étais allée à un de ces ateliers d'écriture au Québec. Et donc, j'avais appris...
Et tu avais compris pourquoi il fallait refaire.
Voilà, j'ai compris pourquoi il fallait refaire. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est aussi une technique. Hein, et donc, ça s'acquiert, ça s'apprend. Même s'il y a effectivement le don et puis le plaisir et l'envie au départ. Mais il y a quand même aussi du travail.
Alors, l'envie, tu essayes de leur donner envie, là, aux enfants qu'on a face à nous?
C'est pas difficile d'écrire une histoire de science-fiction. Je vais vous donner une recette, vous allez voir.
Vous notez, après, vous pourrez comme ça épater vos profs de français. Il faut noter, là, c'est important.
Alors, moi, je me sers de la science-fiction comme d'une loupe. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une loupe. Hein, quelque chose, un objet qui grossit. Alors, voilà, vous prenez un problème actuel... Quelque chose qui n'est pas encore trop dramatique, qui peut poser problème dans le futur quand même. Et puis vous posez votre loupe science-fiction dessus, vous grossissez les choses et vous projetez tout ça dans un futur en évitant trop de le dater. Il ne faut pas mettre trop de dates parce que si on met des dates, on est un peu prisonnier après de la vision que la date suggère. Et voilà, et c'est parti. À partir du moment où vous avez grossi un problème, eh bien, vous avez déjà une grosse partie d'un univers de science-fiction qui est mis en place. Moi, j'ai fait ça. Pour L'Or Bleu, je voulais parler de l'eau. La meilleure façon d'attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, c'est de lui retirer. Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai. Si jamais on dit que... Il ne va plus y avoir de sucre, vous allez voir tout le monde se précipiter pour acheter des kilos de sucre dans tous les magasins, alors que, a priori, plein de gens disent qu'il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas ceci. Mais si jamais on dit qu'il ne va plus y avoir de sucre, tout le monde en veut. Hein. Alors moi, je me suis dit, c'est pas difficile, je vais attirer l'attention sur l'eau. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai vidé la mer Méditerranée. Et puis, plus de mer Méditerranée, avec toutes les conséquences que ça entraîne, et des guerres autour du thème de l'eau, etc. Donc j'ai grossi un problème qui est celui de l'importance de l'eau de nos jours. J'ai fait pareil dans Les Oubliés de Vulcain. J'ai eu l'occasion d'aller visiter une décharge avec une de mes classes. Vous allez dire, elle faisait de drôles de sorties scolaires, cette dame, quand elle était prof, mais j'étais dans l'Essonne à l'époque, on travaillait sur un projet autour des déchets, et... j'ai posé la question toute banale à mes élèves en disant, est-ce que quelqu'un peut me dire où vont nos ordures? Alors, toute la classe m'a regardé en ayant de dire « Bon, elle est fatiguée, la prof, aujourd'hui. » Et alors, il y en a un qui m'a répondu « Madame, les ordures, elles vont dans la poubelle. » On y a l'air de dire « On va y aller doucement. » Bon, et là-dessus, j'ai dit « Très bien, où va la poubelle ?» Alors, au bout du jardin, en bas de l'immeuble. Bon, très bien, qu'est-ce qui se passe après ? Un camion Ben qui passe. Bien. Alors, et ensuite, ça va à la décharge. Très bien. Je dis « Où est la décharge ?» Grand silence. Personne ne savait où était la décharge. Et évidemment, quand un prof pose une question, par définition, il a la réponse. Alors, toute la classe me regarde en disant « Alors, madame, elle est où, la décharge ?» Je dis « Je ne sais pas, moi. » Je dis « Je vous pose la question parce que je ne sais pas. » Alors là, d'un seul coup, la réputation du prof tombe du piédestal d'un seul coup. Et alors, est venue à mon secours une de mes élèves qui, timidement, a levé le doigt dans un coin de la classe en disant « Moi, je sais, madame, où est la décharge ?» Alors, on s'est tous retournés parce qu'elle ne parlait pas souvent. Et ses camarades et moi, et je lui dis « Tu sais où est la décharge, toi ?» Elle dit « Oui, parce que c'est mon père qui en est le directeur. » Alors, toute la classe « T'habites à la décharge, toi ?» Alors, j'ai dit « Non, elle habite sûrement pas à la décharge, mais bon. » Et donc, elle me dit « Oui, mon père est directeur de la décharge. » Alors, corrélaire immédiat qui me vient à l'esprit, je lui dis « Ça se visite ?» Toute la classe courbe le dos en disant « Non, non, pourvu qu'elle dise non. » Eh bien non, elle a dit « Oui. » Alors, je ne vous dis pas la tête du chef d'établissement quand je suis allée le voir en lui disant « Monsieur
projet
le principal,
pédagogique,
voilà,
visite de la décharge.
J'ai l'intention d'emmener mes élèves à la décharge. La première chose qu'il m'a demandé, c'est
ne les jetez pas,
si
s'il
j'avais
vous plaît.
L'intention de tous les ramener. » Et nous sommes allés à la décharge. Et c'est vrai que cette visite a été très, très instructive pour les enfants et pour moi aussi, parce que ça vaut le coup quand même. À l'époque, c'était une des plus grandes décharges d'enfouissement en France, hein, la décharge de l'Essonne. Et donc, bon, maintenant, on a les incinérateurs, on a les déchetteries, on a du retraitement, mais il y a encore de l'enfouissement, hein, il ne faut pas se leurrer. Au retour dans le bus, un de mes élèves a dit « Madame, si ça continue, on va transformer la Terre en planète poubelle. » Et j'ai regardé mon élève, j'ai dit « Ça, c'est une idée géniale !» Alors, généreux, il m'a dit « Je vous la donne. » Alors, de dire
« Tu payes, j'espère, des droits maintenant.
» Alors voilà, la planète poubelle est née comme ça aussi, de quelque chose de très concret, en grossissant un événement et... C'est ce que je dis souvent. En fait, c'est une démarche science-fictive assez simple. Prendre un événement, prendre une problématique, grossir, voir ce que ça peut donner comme conséquence avec la loupe science-fiction. Et puis après, se laisser porter un peu sans trop se censurer, peut-être.
Et est-ce que c'est différent quand tu écris pour les adultes ? Parce que tu écris des nouvelles pour adultes. Tu as, je crois, depuis pas mal de temps un roman, un projet,
oui,
il est sorti,
oui,
non ?
Oui, il est, non, oui, il est, non, il n'est pas sorti, non, parce qu'il n'est pas fini d'écrire.
Parce que je surveille, et puis je ne l'ai pas vu sortir, donc je suis très,
non,
très fâchée.
Il n'est pas fini d'écrire, il est en cours d'écriture. Mais bon, la littérature jeunesse me sollicite pas mal, alors j'ai toujours quelque chose
et
en jeunesse
c'est
à
la
faire.
Même, c'est la même technique qu'on écrive pour des jeunes, qu'on écrive pour des adultes ?
À quelque chose près, enfin en ce qui me concerne, oui. Je ne sais pas quel serait le verdict de mon lectorat face à mon roman adulte, mais... Je suis très à l'écoute de ce que me dit mon mari, et mon mari me dit « Fais donc ce que tu sais faire, des aventures avec des tas de choses qui se passent. »
Et ça marchera avec tout le monde.
Et ça marchera avec tout le monde, voilà. Il me dit « Si ça marche avec moi, ça marchera avec d'autres. » Et donc, quelque part, oui, c'est rassurant aussi d'avoir un lecteur à la maison. Et donc, je ne pense pas que ce soit vraiment différent. C'est peut-être... écrire pour la jeunesse m'a obligée et m'a peut-être habituée à aller très vite à l'essentiel. Ne pas se perdre dans des tas de détails, essayer de gommer un peu les descriptions. Il faut reconnaître que ça, les jeunes lecteurs n'aiment pas trop. Aller très vite vers l'essentiel dans le dialogue, caractériser les personnages très rapidement... Donc j'ai besoin de faire un léger retour en arrière, question de ça. Donc pour l'instant, j'ai une technique qui me convient, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai envie de faire avec le rythme naturel qui me vient. Et après, je reviens en arrière et je retravaille. Parce que je me rends compte que je me plais tellement finalement dans mes univers que je peux y passer tout mon temps. Donc je reviens en arrière, je rajoute, je réinjecte des choses, je complexifie, enfin bon, et... Alors en faisant attention justement de ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de rendre
le texte peut-être trop compliqué, trop difficile à aborder.
Ou au contraire, trop naïf, parce que c'est de la littérature.
Au contraire, trop naïf. C'est ça, peut-être, qui est, à mon avis, assez difficile. C'est de trouver le juste équilibre.
Alors, je te propose qu'on laisse la parole au public, parce que nous avons sans doute des gens qui ont lu tes bouquins et qui aimeraient bien te poser quelques questions plus précises. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Daniel ? N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, vous le savez. Oui, un jeune homme là-bas. Lève le doigt bien haut que la dame te voit.
Est-ce que après on pourra est-ce que après tu pourras nous signer des autographes?
Oui, je pourrai, sans aucun problème.
À 14h30, il y a une séance de dédicace.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a des questions sur les livres ou sur le travail de Daniel ?
Là, je sais plus ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que tu as lu, d'Ivoire ? Est-ce que tu as lu un des livres ?
Bah oui.
Oui, lequel ?
Je sais plus son nom.
Voilà, bon. C'est bien un livre de Daniel Martinigol, quand même.
Oui.
C'est peut-être Kim Aldani, non ? Non, c'est Daniel Martinigol.
Si. Non, bon. C'était.
Oui. Vous ? Bon, c'était bien moi. Alors, ça parlait de quoi ? Vas-y.
En fait, je ne sais plus trop parce que je n'ai pas lu entièrement.
Ah, bon, alors, est-ce qu'après m'avoir vu là, sur ma belle estrade rouge, est-ce que tu auras envie de lire la suite pour voir justement comment ça finit ?
Bah oui.
Bon, alors, tu vois, on n'a pas perdu notre temps.
Voilà, ça c'est une table ronde réussie.
Tu vois, pour moi, c'est une grande victoire.
Il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose, je crois, derrière ?
Combien tu en fais des livres par année ?
Alors, disons qu'en moyenne, il y en a deux, à peu près, deux ou trois. Mais je ne pourrais pas écrire deux livres en même temps. Si tu veux, dans un livre, il y a trois étapes. Il y a l'étape de recherche, de construction de l'histoire. Il y a vraiment la période d'écriture même. Et puis après, il y a une troisième période qu'en général, les élèves n'aiment pas beaucoup. C'est la période de correction. Et la période de correction, elle peut être assez longue. C'est-à-dire que ça m'est arrivé quelquefois de corriger pendant 3 mois un roman qui demandait beaucoup d'amélioration. Parce que je suis une personne normale et que ça m'arrive de faire des erreurs et que je ne fais pas du premier coup un livre parfait et qu'il faut donc corriger, souvent avec les conseils des directeurs de collection dans les maisons d'édition. Et donc, je peux très bien travailler sur 3 livres, un en recherche, un en écriture et un en correction en même temps. Ah ben voilà, les doigts se lèvent, voilà, c'est parti.
Ça y est.
Est-ce que les livres pourront s'arrêter un jour ?
Est-ce que les livres
pourront s'arrêter un jour ?
Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourront s'arrêter ?
Est-ce que les livres pourront s'arrêter un jour ?
Oui, mais j'ai compris tous les mots, mais je ne comprends pas trop ce que tu veux me demander. Est-ce qu'il n'y aura plus de livres, tu veux dire ? Non, c'est pas ça ? Ou est-ce que moi, il n'y aura plus de livres que j'écrirai plus ?
Bah oui, c'est la question.
Ah oui, alors bah, écoute, pour l'instant, ça va. J'ai à peu près encore la santé et tout ce qu'il faut et l'énergie pour écrire. Tant que je pourrai,
et l'envie,
tant que je pourrai, je n'ai pas trop l'intention de m'arrêter. Il n'y a pas de retraite pour les écrivains.
Il n'y en aura bientôt plus pour personne, t'inquiète pas. Autre question ?
À quel âge vous avez commencé ?
Alors, j'ai vraiment commencé à écrire avec l'idée d'envoyer des textes chez un éditeur à 35 ans. Mais j'écrivais depuis très jeune. J'ai écrit beaucoup de poésie, je faisais des nouvelles. J'ai toujours écrit, c'est toujours passé par l'écriture, beaucoup de choses. J'inventais des histoires pour mon petit frère et je les mettais sur le papier après. C'est comme ça que j'ai pris le goût d'écrire des histoires. Mais bon, disons que pour devenir vraiment écrivain professionnel, comme on dit, c'est-à-dire pour publier mes livres, j'ai commencé à l'âge adulte, en fait. Hein. Mon premier roman est sorti l'année de mes 40 ans.
Combien t'as fait de livres ?
Alors, si je compte tous ceux que j'ai faits, il y en a une quarantaine. Alors, il y en a des petits, parce qu'il y a des romans beaucoup plus petits, des manuscrits écrits assez rapidement, parce que c'était pas des gros bouquins de science-fiction, comme mes gros romans de science-fiction. À moi, il y en a 8. Et les autres ont été écrits pour certains en collaboration avec Alain Grousset. Il y en a au moins une quinzaine, si, oui. Et d'autres écrits à trois avec Alain Grousset et Paco Porter. Et là, il y en a 12. Donc, en tout, ça fait une quarantaine, je pense, à peu près.
Alors, une autre question ?
Mais vous voulez en faire combien d'autres livres ?
Ben, je ne sais pas trop. Là, je suis partie pour... je suis en train de construire un autre monde. Parce que je me demandais justement si je serais capable de sortir un peu de mes histoires habituelles. Et en fait, je crois que j'en sortirai pas vraiment, d'ailleurs, parce que j'y reviens. Au départ, l'idée était différente, mais je reviens quand même à mes thématiques préférées, à mes vieux démons, voilà. Mes vieux démons étant à 90% le voyage dans l'espace, parce que je suis fasciné par l'idée de voyager dans l'espace, de communiquer dans l'espace. Enfin bon, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, envisagé, imaginé. Et donc, si je pars sur ce que je suis en train de faire, il y en aura certainement deux ou trois encore. Alors voilà, dans cet univers-là.
Ça fait quoi d'écrire un livre ?
Eh bien, quand il est publié, et puis que les lecteurs viennent vous voir en vous disant « j'ai beaucoup aimé votre livre », ça fait très, très plaisir. Là, vraiment, c'est une activité extrêmement solitaire quand même, hein. La plupart du temps, je suis chez moi devant mon ordinateur avec mon chat. C'est vrai que...
Donc, vous avez compris, pour être écrivain, il faut avoir un petit frère au début pour pouvoir écrire des histoires, puis il faut avoir un chat. C'est une nécessité absolue.
Mais bon, oui, ça fait plaisir. Quand les livres sont acceptés, qu'ils sont appréciés, c'est une grande joie.
Allez, on va prendre encore deux questions, peut-être, sinon on va déborder.
Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ?
Eh bien, là, à côté,
juste
à la librairie. On va y aller, là, puisque normalement, je dois aller dédicacer sur le stand des dédicaces à partir de 14h30.
Une dernière question.
Est-ce que tu viens souvent aux Utopiales ?
Eh bien oui, j'y suis venue souvent. J'ai eu le grand honneur de recevoir ici à Nantes le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002 pour Les Abîmes d'Outre-mer. Ça reste un super souvenir parce que c'était dans le grand auditorium en bas avec un décorum absolument, vous savez, le genre, les nominés sont un tel et Daniel Martinigol. Enfin, je suis très fière d'avoir remporté ce prix cette année-là avec Les Abîmes d'Outre-mer. Et puis justement, Outre-mer, c'est une planète maritime. Et moi, j'aime l'océan, j'aime la mer. Enfin, c'est un endroit que je me plais dans l'eau. Hein. Si j'aime l'eau, c'est parce que justement, bien que je sois une fille des vignes, hein, je suis née à Meursault et j'habite dans le Beaujolais. Donc,
c'est pour contrebalancer.
Je mets un peu d'eau dans mon vin là, mais c'est vrai que j'ai été très fière de recevoir ce prix à Nantes là, avec une porte ouverte vers l'océan Atlantique.
Puis tu es revenu après 2002.
Je suis revenu, oui, bien sûr. Oui.
Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Et puis, lisez, 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 évadez-vous, c'est important. Et pour les jeunes, n'hésitez pas à écrire vos histoires. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on écrit, au contraire, il faut être fier de ce qu'on écrit. Et puis, vous verrez, ça fait vraiment, comme disait Daniel, extrêmement plaisir. Je vous remercie, bon festival.
Merci à tous.